D'abord, je voudrais remercier Lisa Antebi de m'avoir invitée. Je voudrais remercier aussi l'Université de Venise pour son accueil très, très, très chaleureux. Et donc, je vais commencer ma communication donc, en vous parlant d'une comparaison entre deux sociétés musulmanes. Donc, on va rester dans une comparaison intra-musulmane entre deux pays de tradition sunnite. Donc, qui est la Mauritanie, en particulier au sein de la Mauritanie, la société Maure, qui est une société arabophone, et la Mauritanie faisant partie du Grand Maghreb avec la Libye, et aussi donc où j'ai fait un terrain il y a quelques années, et aussi au Caire. Alors, on sait que ces dernières années, il y a eu beaucoup de réformes juridiques importantes dans certains pays musulmans. On a beaucoup parlé de la Moudawana aussi au Maroc, et en particulier en matière de mariage et de divorce. Alors, en Mauritanie, le premier code, et le dernier pour l'instant, code de statut personnel, date de 2001. Donc, celui-ci reconnaît le droit au divorce des femmes. Mais ce code de statut personnel n'a opéré en la matière aucune révolution socio-juridique, puisque le droit au divorce des femmes est reconnu et pratiqué depuis très longtemps dans la société maure de Mauritanie. Alors ce droit trouve sa légitimité juridico-religieuse dans les textes de droit malékite ancien, donc puisqu'il s'agit d'une société qui pratique le droit malékite, et donc ces textes de droit malékite anciens servant de référence à la pratique juridique maure. Alors le droit au divorce féminin, il est connu en arabe sous le terme de roul. Cette pratique, bien que peu connue et en général aussi peu pratiquée par les sociétés musulmanes, donc figure pourtant dans les textes de droit musulman classique, et textes qui constituent justement le socle législatif donc de cette société. Alors, les femmes maures n'ont pas attendu donc l'introduction de ce code de statut personnel de 2001 pour bénéficier de ce droit au divorce. Et la situation, donc justement, je vais montrer que la situation des femmes maures semble à cet égard assez différente de celle des femmes égyptiennes, qui redécouvrent aujourd'hui ce droit au divorce à travers aussi les nouvelles réformes législatives en matière de statut personnel qu'a connu l'Égypte en 2000, puisque ce n'est qu'en 2000 qu'est reconnu en Égypte le statut. Donc le rôle, la possibilité pour les femmes de divorcer, ce qui était totalement ignoré avant, alors que, je le répète, c'est une pratique bien connue dans la société maure depuis qu'on ne peut pas dater, c'est une pratique qui est considérée comme quasi ancestrale. Alors, d'autre part, une différence aussi entre la société, de ce point de vue-là, égyptienne et mauritanienne, c'est qu'en Égypte, ces avancées législatives ne concernent bien souvent qu'une petite frange de la population, en particulier des zones urbaines et des milieux sociaux particuliers. Et ces réformes législatives ne sont pas toujours suivies d'application dans la réalité, étant donné le poids des traditions et la persistance de certaines formes de rapports de genre. Or, ce qui est une grande différence avec la Mauritanie, puisque les femmes maures savent donner à ce droit au divorce une portée sociale, et on le verra, c'est aussi parce qu'elles sont soutenues en cela par leur propre famille. Parce qu'on verra aussi que derrière les rapports de genre, il y a des questions aussi anthropologiques de rapports entre famille et de parenté. Alors, bon, je vais présenter très brièvement la société maure de Mauritanie. Donc, c'est une région du Sahara qui est islamisée depuis fort longtemps. Donc, elle a été islamisée au XIe siècle par les Almoravides, qui ont introduit donc le droit malékite dans la région. Donc, la société maure parle un dialecte arabe, qui est le Hassaniya. Et c'est une société qui est par tradition bédouine, d'origine... Je dis bédouine parce qu'aujourd'hui, donc, la plupart sont sédentarisés à Nouakchott, mais dans la mentalité, dans la façon de vivre, ils restent traditionnellement des bédouins. Donc j'emploie le terme de bédouin dans le sens culturel plus que géographique et comme un mode de déplacement et un mode pastoral et économique. Donc c'est une société aussi qui est structurée en tribus et qui possède donc une organisation sociale très hiérarchique, mais je ne vais pas développer tout ça. Alors, même si de nombreuses tribus sont sédentarisées, pour une grande part donc à Nouakchott, dans la capitale, les membres de ces tribus, donc les morts, ne passent généralement pas par des tribunaux étatiques de Nouakchott pour arbitrer leurs litiges. Historiquement, si la colonisation française en Mauritanie a modifié le paysage politique local, elle n'a pas fondamentalement changé le cadre juridique mauritanien, en particulier dans le domaine de la famille, où la référence au droit islamique reste fondamentale. Donc le code de la famille mauritanien de 2001 est basé essentiellement sur le droit musulman, et il s'inscrit donc dans une continuité avec les textes classiques islamiques qui ont été utilisés localement, ainsi qu'avec la pratique sociale qui est connue jusqu'alors dans la société maure. Les Maures ont en effet pour habitude d'utiliser les textes de droit malikite comme source de référence juridique. Ce sont donc des textes de droit très anciens, puisque parmi eux on peut trouver des textes du Xe siècle, de Ralil du XIVe siècle, aussi Ibn Hassim, et qui datent de la fin du XIVe siècle. Donc on a une tradition très lettrée. Le fait que ce soit une tradition, une société nomade, où l'oralité avait beaucoup d'importance, on connaît, il y a beaucoup d'érudits qui connaissent beaucoup de textes par cœur, on a une grande mémorisation de textes anciens classiques. Et qui sont diffusés dans pas mal de catégories sociales. Alors donc c'est intéressant parce que donc la pratique juridique maure qui reconnaît depuis longtemps le droit au divorce des femmes vient donc relativiser l'idée assez répandue selon laquelle l'utilisation dans une société de sources juridiques islamiques anciennes serait nécessairement préjudiciable aux femmes, puisque là on voit que justement la reconnaissance très précise des textes musulmans leur a permis justement de reconnaître qu'il existait un droit, bon on va le voir, qui est quand même limité et qui a ses conditions, mais au divorce des femmes, et qui était méconnu par d'autres sociétés peut-être qui n'ont pas poussé aussi loin la connaissance des textes précises du droit et de leur interprétation. Donc cette idée selon laquelle donc si on se réfère à des textes juridiques anciens, on serait plus rétrograde vis-à-vis des femmes, donc sous-estime l'importance du contexte culturel au sein duquel donc ces textes sont utilisés, puisqu'on va voir que justement le contexte culturel est absolument fondamental. En effet, la recherche conduite ici montre que le degré de connaissance de ces sources et surtout les rapports de genre pratiqués localement déterminent prioritairement l'usage qui est fait des textes juridiques ainsi que leur inscription dans la pratique sociale. Alors, comme je le disais, le contexte maure est un contexte plutôt érudit, où il existe une connaissance assez précise des textes musulmans. Et ensuite, cette connaissance des subtilités de la jurisprudence malikite, il y a aussi une connaissance des fondements du droit, ce qu'on appelle dans le droit musulman les usul al-fiqh, c'est-à-dire de la façon donc, d'appréhender et d'utiliser le corpus juridique, qui amène à une utilisation beaucoup plus souple aussi qu'une utilisation littérale des textes de droit. Donc cette connaissance profonde de la lettre de la loi ainsi que de son esprit permet d'user de ce corpus de texte au quotidien d'une façon donc plus dynamique et plus éclairée. Et comme je l'ai dit aussi, dans cette société nomade, la mémorisation orale est grandement développée, et surtout dans le domaine du savoir religieux qui est jusqu'à encore récemment particulièrement valorisé. Alors aussi, il n'est pas toujours nécessaire de recourir à un juge ou à un cadi pour faire un acte juridique, par exemple, ce qui est le cas pour le divorce féminin. De nombreux actes juridiques dans le droit musulman, en effet, ne nécessitent pas de juge, mais de témoin. On sait que la notion de témoignage, de shahada dans le droit musulman est extrêmement importante. Et aussi, donc, ces actes juridiques ne sont pas nécessairement écrits non plus, puisqu'ils peuvent être oraux, à condition qu'il y ait justement ces témoins et que donc qu'ils peuvent témoigner de cet acte juridique. Et en général, donc, dans cette société, mais c'est aussi donc en référence au droit musulman tel qu'il peut être pratiqué, le juge ou le cadi n'est appelé qu'en cas de litige. Et non pas pour nécessairement pour des actes comme le mariage, on n'a pas besoin d'un cadi ou d'un juge, ni pour le divorce. Alors, les mères en Mauritanie jouent un rôle crucial auprès de leurs filles dans la transmission et dans leur défense de leurs droits, particulièrement relativement à leurs droits au divorce et à la monogamie, mais ça je ne vais pas en parler, j'en ai parlé un petit peu ce matin à travers ce qu'a dit Mohamed Kérou sur la monogamie, puisque les femmes imposent aussi la monogamie dans le contrat de mariage, et là c'est la mère qui défend à travers la négociation de la dot le droit à la monogamie pour sa fille. Et donc l'importance des mères est très très importante, elles sont écoutées. Et l'imposition par les femmes donc, de ces droits à la monogamie ou au divorce féminin ne tient pas dans la société morte à l'influence d'un mouvement féministe local, qu'il soit européen ou musulman. Les femmes mortes ignorent l'existence d'un tel mouvement, mais il s'agit bien là donc, d'un contexte culturel particulier. Alors, il est et aussi d'un contexte aussi social, on va le voir. Alors, il est en effet plus facile pour une femme mariée, on va le voir dans la comparaison justement, avec, puisque la comparaison m'a amenée avec l'Égypte, dans un second temps, m'a amenée à voir mieux mon premier terrain, et ce qu'il avait de particulier, le statut des femmes, comment les textes étaient utilisés en Mauritanie. Donc, il est plus facile donc, pour une femme mariée d'envisager de s'opposer à son mari en Mauritanie quand elle peut compter sur le soutien de sa propre famille, comme c'est le cas dans la société morte. Puisque, en effet, une femme dans la société morte, et ça c'est très important, même mariée, elle n'appartient toujours pas, enfin, elle appartient en partie à son mari, mais elle est toujours liée fondamentalement et substantiellement, je dirais, à sa propre famille. Donc la filiation étant patrilinéaire. Et c'est très important parce que si elle est en conflit avec son propre mari, elle peut avoir l'appui de sa propre famille. Et donc c'est ce qui est très important puisque elle peut compter sur le soutien social et économique de sa famille, ce qui n'est pas le cas en Égypte lorsqu'une femme souhaite se séparer de son mari. Alors, les travaux sur le mariage et le divorce en islam se sont surtout focalisés sur la répudiation masculine, qui est vrai et quand même aussi un phénomène majeur dans ces sociétés. Mais le divorce féminin qui existe pourtant, roule, a été beaucoup moins connu et aussi beaucoup moins pratiqué aussi dans ces sociétés. Alors, pourtant, il est admis par donc le roule, le droit au, bon, ce que j'appelle le divorce féminin. On va voir après l'étymologie de ce terme. Est admis par la plupart des écoles juridiques musulmanes, non seulement par les malikites, mais aussi par d'autres écoles juridiques sunnites, qu'elles soient chafiites, hanbalites ou hanafites, ainsi que par les chiites. L'aspect le plus subversif de cette procédure légale consiste dans le fait qu'elle autorise les femmes à divorcer sans avoir à fournir de justification. En effet, à la différence du divorce féminin pour préjudice, qu'on appelle darar, que le motif soit une maladie contagieuse, l'impuissance de l'homme non connue par la femme au moment du mariage, ou encore le manque de soutien économique au foyer, soit la violence conjugale ou encore l'absence prolongée du mari du domicile, tout cela permettant à la femme de conditionner son divorce pour préjudice. Donc la femme, en cas de divorce par roule, n'a pas à fournir de raison de son divorce dans les textes. Par contre, alors que le divorce par préjudice peut être prononcé par le cadi sans le consentement du mari, le roule exige donc pour préjudice, même si donc là, c'est-à-dire que dans le divorce par préjudice, même si le cadi reconnaît qu'il y a préjudice, bien que le mari ne consente pas au divorce, il peut prononcer le divorce. En revanche, ça c'est une différence majeure aussi entre le divorce féminin, c'est-à-dire que une tierce personne aussi le juge peut le prononcer, c'est pas obligatoire, mais en fait il ne sera effectif que si le mari l'accepte. Donc c'est déjà une première restriction. Alors, donc ce type de divorce donc accorde à le roule accorde à la femme une liberté de décision donc dans le fait puisqu'elle n'a pas là à donner de raison dans le fait de vouloir rester unie à son mari même si en dernière instance donc la décision finale d'accepter ou non cette procédure de divorce revient à l'époux. Donc il est aussi important de souligner donc que le droit qui accorde à la femme le divorce n'est pas entièrement comparable au droit totalement absolu et aussi inconditionné qu'a l'homme de répudier sa femme, non seulement sans aucune raison, mais surtout sans son consentement. Alors, le divorce féminin est nommé donc « roule », comme je l'ai dit en arabe, c'est un terme qui dérive du verbe « rala'a », qui signifie « déposséder »,« retirer ». En l'occurrence, défaire donc le lien matrimonial qui unit la femme à son mari. Mais pour divorcer, pour cette procédure de divorce, la femme doit acheter, pourrait-on dire, à son mari sa liberté. Et la somme donc versée par l'épouse à son mari n'est pas précisée en droit malikite, mais il est néanmoins suggéré qu'elle peut correspondre au montant donc, de la dot, mar en l'occurrence, puisqu'on a eu des problèmes terminologiques tout à l'heure. Alors, de nombreux juristes rapportent à cet égard la réponse du prophète à une femme. Donc, vous savez que le prophète, étant la source, avec l'oncle Hadith et la Sunna, étant le modèle, comme le Christ, on pourrait dire, chez les chrétiens, un modèle d'édification et d'identification pour les musulmans, un modèle de conduite. Donc, de nombreux juristes rapportent à cet égard donc, la réponse du prophète à une femme qui lui faisait part de sa volonté de divorcer. Il approuva sa décision à condition qu'elle rende à son mari le jardin qu'elle avait reçu en dot. Donc, il y aurait des hadiths qui déjà montrent que le prophète donc, aurait autorisé cette procédure de divorce à condition de payer, donc de rendre une partie de la dot. Donc, on voit toujours ce lien très étroit entre le lien matrimonial et la dot qui permet donc d'acheter, c'est pour ça que tout à l'heure on parlait de sujet, qui permet d'acheter le corps de la femme. Alors, je ne vais pas revenir, alors j'ai retrouvé d'autres en Algérie, au Mzab, je ne vais pas tout détailler, mais j'ai trouvé des références aussi au divorce féminin qui existe dans d'autres sociétés du Maghreb, qu'elle soit berbère ou arabe, je soutiens que cette différence n'est pas toujours pertinente. Donc, à la différence de la procédure de divorce judiciaire par préjudice, donc ou darar, où la femme est en droit de reprendre la totalité de ses biens, dans la société mort, donc l'épouse laisse à son mari le mobilier qu'elle a apporté lors de son installation. Le troupeau, parce que c'est une société nomade, donc la femme venait avec son propre troupeau qui lui a été donné par son père, ce qui lui permettait aussi d'avoir une autonomie financière par rapport à son mari. Et puisque vous savez qu'en islam aussi, c'est quelque chose, les biens de la femme sont indépendants, ne dépendent pas de l'homme, n'a aucun droit de regard sur les biens de la femme. Elle est en droit aussi de reprendre les biens qui ont été offerts par son mari. Alors donc une expression locale montre qu'elle se dépouille de tout ce qui lui a été donné et de tout ce qu'elle a reçu donc de son mari. Une expression locale dit elle pointe l'aiguille. Ça veut dire qu'elle pointe l'aiguille, c'est un signe de rébellion. C'est-à-dire qu'elle remet son contrat de mariage en cause, mais en même temps, donc, ça veut dire qu'elle se dépouille de tout ce qu'elle possède, y compris l'aiguille qui tient sa coiffure, et donc qui est le signe aussi de la féminité. Donc, dans ce geste de dépouillement total, donc, la femme réaffirme aussi l'honneur de sa tribu, montrant ainsi qu'elle ne dépend pas économiquement de sa famille par alliance, lorsqu'elle se sépare et qu'elle renonce à tous ses biens, elle ne dépend pas de son mari et qu'elle a sa propre subsistance économique, sa propre famille, l'aidant le plus souvent dans le fait de réunir une certaine somme aussi ou certains biens pour acheter sa liberté à son mari. Alors, dans le droit malékite, comme dans la société mort, si le mari accepte la compensation financière que lui offre sa femme pour rompre le mariage, celui-ci est dissous immédiatement et le divorce est irrévocable, ce qu'on appelle donc en droit musulman « talaq bayn ». L'opération du roul, selon les fuqaha, donc les juristes musulmans, s'effectue ainsi avec le consentement mutuel des deux conjoints et n'exige pas l'intervention du juge, ni même, selon certains, la présence de deux témoins. Donc c'est une situation qui existe, qui est pratiquée de cette façon dans la société mort, bon, et qui est très différente de la situation égyptienne où le passage devant la cour de justice en cas de roule est la règle. Alors, dans la société mort, bien qu'elle en soit l'initiatrice, ce n'est pas la femme en général qui propose le montant donc, de la somme à verser au mari, mais c'est le mari lui-même, souvent avec l'accord du père de la femme. Donc le mari qui consent au divorce de sa femme donc, reçoit ce versement. Mais dans la société mort, donc, on a toujours cette idée qu'on retrouve dans le droit musulman et aussi dans la société mort qu'un homme ne peut pas dépendre économiquement de sa femme. C'est-à-dire que l'homme aussi doit subvenir aux besoins du foyer et de la femme. Donc c'est quasiment un déshonneur pour un homme de recevoir de l'argent de sa femme ou des biens de sa femme. Donc en fait, il va recevoir ses biens, mais en général, il ne les utilise pas pour lui-même. Il les redistribue à sa famille ou à des plus pauvres ou à des serviteurs. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que dans le rite malékite, donc le roule peut prendre la forme d'une compensation financière, donc on l'a vu, mais aussi la forme de l'abandon d'un droit. Par exemple, celui de la garde des enfants, c'est-à-dire que l'homme peut demander à la femme lui accorder le divorce, soit à condition donc de cette somme, soit à condition de l'abandon de ce droit. Et donc ce qui est appelé dans le droit musulman hadana, ou encore d'un autre droit comme le droit à la rétribution pour l'allaitement, puisque on peut trouver une rétribution du mari pour que la femme continue à allaiter pendant 2 ans l'enfant, comme c'est demandé par le Coran. Alors, donc dans la société morte, une telle rétribution par rapport à l'allaitement n'a pas lieu, puisque en général, la femme ne demande pas de rétribution pour allaiter son mari pour allaiter son enfant. Mais par contre, même si c'est extrêmement rare, il arrive parfois qu'à la suite de cette forme de rupture, l'homme blessé dans son orgueil exige la garde des enfants, ce qui est extrêmement problématique pour la mère. Et donc, ce qui n'est pas le cas en Égypte aujourd'hui, où justement le code de famille... c'est conformément aussi au droit malékite ancien, on avait ces deux possibilités. Aujourd'hui, dans le droit égyptien, il n'y a que la rétribution qui est possible et la femme n'a pas besoin, l'homme ne peut pas demander qu'elle renonce à son droit de garde de ses enfants, donc ce qui est une protection par rapport à cela. Alors, donc aussi la comparaison du cas mauritanien avec le cas égyptien montre aussi combien le rôle peut être interprété différemment selon les sociétés, puisque dans la société urbaine égyptienne, c'est l'homme qui doit réclamer à son épouse les biens qu'il lui a offerts pendant la vie conjugale. Tandis qu'un homme, comme je l'ai dit tout à l'heure dans la société morte, perdrait son honneur qui est fondé sur la générosité, ça fait vraiment partie de l'identité masculine, s'il faisait cette requête à sa femme, donc même si c'est elle donc, qui souhaite le quitter. Alors, de plus, en Égypte aussi, le fait qu'une femme n'attende pas que son mari ait recherché les preuves, puisque en fait le tribunal demande au mari de rechercher les preuves de ce qu'il a offert à sa femme, donc pour qu'elle le lui rende. Et donc c'est interprété en Égypte comme le fait d'une femme dépravée qui veut se débarrasser de son mari le plus rapidement pour rejoindre son amant. On verra qu'il y a l'idée souvent aussi quand une femme veut divorcer, mais ça c'est le cas en Mauritanie et en Égypte, et aussi on le verra dans les textes musulmans, c'est souvent qu'on pense qu'elle a un amant et que c'est pour ça qu'elle veut divorcer de son mari. Alors qu'en Mauritanie, comme on l'a vu, une femme qui se délaisse tout d'un coup de tous ses biens en faveur de son mari témoigne de son autonomie et du prestige de sa famille. Donc on voit que deux pratiques peuvent être interprétées de façon très différente. Alors une autre différence, c'est aussi que dans la société urbaine égyptienne, la famille de la femme ne soutient généralement pas dans sa décision de recourir au divorce féminin la femme, dans la mesure où cela constitue pour eux un déshonneur social, et aussi un appauvrissement économique dans la mesure où ils doivent rembourser la dot. Alors qu'on l'a vu, en Mauritanie, la famille de l'épouse l'aide financièrement et encourage même la femme dans sa démarche de séparation avec son mari. Donc, je vais revenir aussi sur le... Donc, j'ai parlé plus tôt là de la situation mauritanienne. Je vais un petit peu parler de la situation égyptienne. Alors, Comme la pratique du divorce en Mauritanie est pratiquée depuis très longtemps, en Égypte, donc c'est que depuis 2000, donc c'est très très récent. Et donc en Égypte, ce divorce a été une bombe. Ça a eu vraiment une connotation extrêmement subversive dans la société égyptienne. Et donc l'Égypte, relativement à cette disposition juridique, est en retard par rapport à d'autres pays musulmans, comme par exemple le Maroc, l'Algérie ou l'Iran, même, dont on a parlé tout à l'heure, puisque le divorce féminin et y est inscrit depuis plus longtemps dans le code de statut personnel. Alors, bien qu'inspirée également du droit islamique, la réforme du droit du divorce en Égypte s'en distingue dans la mesure où, comme je l'ai dit aussi tout à l'heure, la femme a le droit de divorcer avec l'accord du juge, sans le consentement de son mari. Donc, ce qui est aussi une, le texte égyptien va plus loin que le droit musulman, puisque là, et aussi que la pratique mort, puisque là, la femme peut donc divorcer sans le consentement de son mari. Et c'est justement cet écart avec la charia, avec les textes musulmans classiques, qui a constitué un argument de choix en Égypte pour les plus religieux qui s'opposaient à cette loi au nom de la religion, dénonçant ainsi son caractère illégitime. D'autre part, ce qui est aussi intéressant, c'est que les opposants à cette loi avancent un argument aussi bien connu dans d'autres sociétés dès lors qu'on accorde un nouveau droit aux femmes, celui qui consiste à annoncer le désordre social qui est supposé s'en suivre. En effet, la loi égyptienne vient donner à la femme un pouvoir, celui de divorcer, qui n'était alors détenu donc que par les hommes. Donc ceux-ci se sentent menacés dans la mesure où ils sont dépossédés d'une prérogative dont ils détenaient jusqu'à récemment l'exclusivité. Et cette atteinte donc à la domination masculine conduit, comme c'est le cas ailleurs aussi dans d'autres sociétés, dès lors qu'une loi en faveur des femmes est votée, à parler péjorativement. En Égypte, on a parlé de féminisation, c'est aussi un terme qu'on a pu entendre en France aussi ou ailleurs, c'est très intéressant parce que ça, c'est très universel, de la société, entendu comme une menace de l'ordre social. Donc au lieu de considérer donc le droit au divorce des femmes comme d'un point de vue égalitaire ou d'un point de vue d'une plus grande égalité entre les sexes, c'est une vision hiérarchique qui prévaut en Égypte comme ailleurs. Donc cette perspective non égalitariste est d'essence binaire. Si ce ne sont plus les hommes qui dominent, ce sont donc les femmes. Donc toute réforme en faveur des femmes est vue comme une menace en tant qu'elle vient renverser la hiérarchie entre les sexes. Et en même temps, le pôle dominant de cette hiérarchie ne pouvant être que de genre masculin, la polarité hiérarchique entre les genres subsiste en dépit du renversement hiérarchique des sexes. En témoigne la représentation selon laquelle les femmes se trouvent donc, suite au divorce, masculinisées, et les hommes féminisés. On trouve ces catégories très importantes, par exemple, dans les journaux égyptiens. Aussi, donc, un autre argument des opposants à cette réforme du divorce en Égypte consiste à affirmer que donner le droit de divorce aux femmes provoquerait la destruction des familles. On pourrait tout aussi bien appliquer cet argument aux hommes lorsqu'ils répudient leurs femmes, mais ce renversement de perspective n'est jamais envisagé, puisque l'enjeu ici recherché est de remettre en cause le bien fondé des décisions prises par les femmes. En effet, on pense que les femmes qui vont divorcer vont le faire pour des mauvaises raisons, en général. Elles sont considérées comme irresponsables, et on pense qu'elles vont utiliser ce droit au divorce sous le coup de l'émotion, provoquant par là même la destruction de leur foyer. Donc, ne pas donner le droit, donc l'argument des opposants en Égypte au divorce féminin était aussi celui-ci, c'était que ne pas donner le droit de divorce aux femmes était le meilleur moyen de les protéger d'elles-mêmes et des erreurs qu'elles pourraient commettre en utilisant ce droit de façon irrationnelle. Et cet argument donc justifiait, à contrario, que le droit au divorce, donc le talaq, reste exclusivement entre les mains des hommes, qui eux sont capables, donc à la différence des femmes, de contrôler leurs émotions. Et là, je pense qu'il y a aussi une vraie opposition féminin-masculin derrière cette opposition, qui est aussi qu'on retrouve de façon assez constante dans beaucoup de sociétés, entre des hommes qui peuvent contrôler leur corps et leurs émotions, enfin en tout cas leur corps, et les femmes qui ne le peuvent pas. Et alors, il y a eu une étude, par exemple, américaine du Population Council de janvier 2000 qui a été menée en Égypte auprès d'adolescents et qui montrait que la plupart des jeunes filles pensaient que le divorce féminin pouvait nuire au foyer conjugal, donc des jeunes filles. Elles étaient convaincues aussi que les femmes sont plus émotionnelles que les hommes et considéraient qu'accorder ce droit à des femmes mariées les encouragerait à divorcer dès lors qu'elles connaîtraient quelques désagréments dans leur couple. Donc, ce qui prouve encore, même si ça demande, je crois, plus à être prouvé, tant c'est banal, que de nombreuses femmes partagent les stéréotypes masculins qui sont véhiculés sur elles. Alors, certains films aussi en Égypte ont contribué à entretenir aussi la représentation selon laquelle les femmes qui divorcerait pour de mauvaises raisons. En particulier, il y avait un film égyptien qui ridiculisait le rôle en montrant le cas d'une femme qui voulait divorcer après 3 mois de mariage parce que son mari ronflait. Voilà, donc ça, c'était aussi dans les médias. Il y avait cette image de la femme qui pouvait divorcer pour un rien. Donc l'argument selon lequel les femmes feraient un mauvais usage du pouvoir qui leur est ainsi donné... Donc, n'est pas nouveau puisqu'on le retrouve dans beaucoup de sociétés pour justifier la domination masculine. On sait que anthropologiquement, dans certaines sociétés, des mythes aussi faisaient référence à un matriarcat originel qui servait à justifier, à contrario, la légitimité justement du patriarcat, puisque si les femmes avaient gardé le pouvoir qu'elles avaient à l'origine, la société allait à sa perte. Donc, c'est toujours la même logique qui est à l'œuvre encore dans ces procédures. Alors, il y a aussi, d'un point de vue des pratiques sociales en Égypte, il y a aussi la condamnation à laquelle s'expose la femme divorcée, puisqu'à la différence de la société morte où une femme divorcée n'a aucun mal, elle est même valorisée, puisque ça veut dire que si elle est divorcée, elle a de l'expérience, elle est belle, elle est cherchée par des hommes. Donc, en Mauritanie, c'est plutôt un atout d'être divorcée. En général, on a des femmes qui ont connu 4 à 6 mariages, si ce n'est pas plus dans leur vie. Par contre, en Égypte, la situation aussi de la femme divorcée est extrêmement difficile. Donc, elle est condamnée moralement. Alors, cette condamnation aussi donc, touche aussi la femme qui demande le divorce féminin, donc le roule. Mais cette condamnation n'est pas propre à l'Égypte, puisqu'on la trouve aussi dans les textes de droit musulman anciens. Il y a des grands théologiens qui ont condamné aussi cette procédure. C'est le cas, par exemple, de El-Razali, qui considère que la femme connaît une faute si elle réclame un divorce par rachat à son mari, sans qu'elle n'ait rien à lui reprocher. Il cite ainsi plusieurs hadiths dont « Chaque fois qu'une femme demande sans vrai grief que son mari la répudie, elle ne respirera pas les parfums du paradis ». Bon, ou d'autres, il y en a une série comme ça. Donc cet argument jette donc un voile de suspicion sur les femmes qui ont recours au roule en tant qu'il sous-entend qu'elles désirent quitter leur mari dans l'unique but aussi de rejoindre leur amant. C'est aussi souvent ce qui est sous-tendu. Les doutes qu'ont certains théologiens tiennent dans les raisons qu'a la femme à recourir donc, à une telle procédure. Donc, il présuppose qu'elle a un amant avec lequel elle souhaite se remarier. Cette pensée apparaît dans un principe juridique aussi musulman qui dit qu'il est strictement interdit d'épouser son amant. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans les textes de droit musulman et qu'on retrouve aussi dans la société égyptienne. C'est-à-dire que si une femme veut divorcer, c'est derrière. C'est absolument pas parce qu'elle veut quitter son mari, mais c'est parce qu'elle a déjà un autre homme en vue. C'est déjà la suspicion de l'adultère qui colle déjà à la femme. Donc une suspicion négative qui va déjà entacher cette procédure juridique. Et en Égypte, cette suspicion est très présente. Et aussi, donc, dans ce contexte, il est difficile pour une femme d'avoir recours à cette procédure sans être stigmatisée comme une femme infidèle. Il est encore plus pour elle de se remarier quelque temps après son divorce, puisque ce remariage confirmerait au regard de la société donc, qu'elle avait bien un amant avant, et donc son nouveau mari devait être son amant précédent. Donc la situation en Mauritanie est tout à fait différente, puisqu'une femme qui a recours au roule n'est absolument pas stigmatisée, et au contraire, comme je le... Ça signale, on aime les femmes qui ont un caractère assez fort, ça signale donc la force de son caractère. Et comme je l'ai dit aussi, c'est dans un contexte aussi de rivalité entre familles, famille par alliance. Et donc ça signale aussi l'autonomie de sa famille et le prestige, l'honneur de sa famille, puisque les femmes représentent aussi l'honneur de la tribu. Alors, deux minutes. Alors, donc, d'autre part, il y a quelque chose aussi qui est extrêmement important, c'est qu'en Mauritanie, on ne valorise pas aussi, comme dans d'autres sociétés, comme on le dit souvent, musulmanes ou bien maghrébines, autant la virginité. C'est-à-dire que la virginité n'est pas en soi une valeur. D'ailleurs, je pourrais aussi dire que ça, c'est quelque chose aussi qu'on ne trouve pas nécessairement dans le Coran, ou c'est pas quelque chose non plus de très islamique, mais c'est quelque chose de plutôt culturel, la valorisation de la virginité. Mais ça, c'est une autre question et il faudrait un autre... Ouais, on va y revenir. Bon, alors juste pour conclure, donc en conclusion, donc, tandis que le droit au divorce féminin existe donc dans les textes de droit islamique auxquels ces deux sociétés se réfèrent, puisque donc égyptienne et mauritanienne, la société maure donc l'a pratiquée ouvertement, tandis que la société égyptienne a eu tendance à ignorer donc pendant très longtemps cette pratique qui était connue dans les textes de droit musulman ancien. Et depuis donc que la société égyptienne a récemment inscrit ce droit dans le code de la famille, son application donc demeure difficile quand même et sujette à suspicion pour la femme qui a recours. Donc voilà, donc après analyse, l'usage différentiel d'un même droit, donc ce droit au divorce féminin pour les femmes, s'avère dépendre essentiellement donc des rapports sociaux de sexe qui sont propres à chaque société. Je vous remercie.